La marche du monde, Valérie Nivelon.
À écouter ou à réécouter, je vous propose une sélection de nos meilleures émissions jusqu'au début du mois de septembre. L'avenir est un miroir où se reflète le passé, écrit Serge Grusinski, Grand Prix international d'histoire 2015. Dans son livre « L'histoire, pourquoi faire ?», il répond en proposant un dialogue entre le passé et le présent. Car depuis des années, Serge Grusinski s'intéresse à l'histoire longue, globale et connectée. Il cherche l'expérience fondatrice de la mondialisation et il la trouve dans la conquête de l'Amérique par les Espagnols à la Renaissance. Invité par l'Institut des hautes études de l'Amérique latine en 2016, le célèbre historien a prononcé la conférence inaugurale des Jeudis de l'IHEL à Paris avec RFI.
S'il y a des universités dans le monde entier, c'est parce qu'on crée, au milieu du XVIe siècle, l'Université de Mexico et l'Université de Lima. C'est la première fois que l'Europe crée des universités en dehors de l'Europe. Si on lit des livres dans le monde entier, des livres de type européen, c'est parce que en 1539, les Espagnols ouvrent une imprimerie à Mexico et qu'on va commencer à produire des livres en Amérique avant que d'autres Européens se mettent à coloniser le reste du monde et à étendre tout cela. Autrement dit, on a quelque chose qui est, à mon avis, extrêmement important encore aujourd'hui, c'est l'occidentalisation. Quand on se demande pourquoi les djihadistes mettent des bombes et pourquoi cette rage et cette furie, il faut comprendre que ces gens, et je ne suis pas en train de les justifier, réagissent non pas contre le christianisme ou uniquement contre le judaïsme, mais ils réagissent contre quelque chose qui est la civilisation occidentale qui, avec la mondialisation contemporaine du XXe siècle, s'est étendue partout sur la planète. Rien qu'un geste apparemment anodin, nous sommes en 2016, pour quelqu'un qui est musulman, est une imposition supportable. Pourquoi compter à partir de la naissance du Christ ? Et ça, on peut le suivre quand on est historien comme moi, sur la terre mexicaine au XVIe siècle, au Pérou, quand, évidemment, les conquistadors, avec les missionnaires, débarquent avec leur calendrier et obligent les populations locales à penser le temps à partir d'un point de départ qui est, mythiquement, la naissance du Christ.
La conférence de Serge Grusinski est dans la marche du monde, puisque nous avons la chance d'avoir pu enregistrer la conférence inaugurale des Jeudis de l'IHEL, l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Et c'est avec son directeur, Olivier Compagnon, que nous partageons ce grand moment de radio. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Et merci d'avoir choisi RFI et la marche du monde pour faire connaître la pensée novatrice, et j'ajouterai iconoclaste, de Serge Grusinski, qu'il faut présenter à nos auditeurs.
Alors oui, Grusinski, c'est une figure majeure, je crois, de la production historiographique depuis une trentaine d'années, non seulement en France, mais dans le monde entier. Ses travaux sont traduits dans de très nombreuses langues. Il passe son temps à donner des conférences dans toutes les plus grandes universités. Pourquoi ? Parce que c'est un véritable pionnier de l'histoire connectée qu'il a mise en œuvre, alors très à la mode aujourd'hui, évidemment, pour toutes les périodes de l'histoire, mais qu'il a mise en œuvre à partir de ce moment fondateur que constitue effectivement la colonisation du Nouveau Monde par les pays ibériques, à savoir l'Espagne d'une part et le Portugal d'autre part. À partir de là, il a développé une œuvre aux aspects multiples, mais qui effectivement vise à penser les origines d'une mondialisation au cœur de laquelle nous sommes actuellement, et qui évidemment, en retournant vers le XVIe siècle, nous donne un certain nombre de clés pour penser ce qui se passe en ce début de XXIe siècle. Je crois que la force de l'œuvre de Grusinski, c'est précisément cette capacité à faire dialoguer des temps reculés et le très contemporain, de lutter contre ce qu'on appelle maintenant communément le présentisme, c'est-à-dire les sociétés dans lesquelles nous vivons et qui analysent à courte vue un certain nombre de phénomènes qui pourtant sont enracinés dans la longue durée.
Le meilleur pour le plus grand nombre, c'est ce que nous voulons chaque semaine dans la Marche du Monde. C'est également, je trouve, l'esprit de ce cycle de conférences. Mais n'est-ce pas un peu contradictoire avec l'image élitiste de l'université française ?
Ben justement, alors d'abord, je crois que l'université a vocation fondamentalement à sortir de ses murs. Moi, c'est pour ça que j'ai essayé de lancer cette, entre guillemets, université populaire, qu'entend constituer les Jeudis de l'IHEL. Je crois que l'université, effectivement, a un rôle à jouer vis-à-vis de la société civile. Les savoirs qui y sont accumulés, qui sont des savoirs parfois très spécifiques, doivent être disséminés, doivent être vulgarisés au sens le plus noble du terme.
Ça veut dire que tout le monde peut venir, tout le monde est invité.
Ah, évidemment, tout le monde est invité, les étudiants bien entendu, les enseignants, etc. Mais je dirais le grand public, c'est véritablement à lui que s'adressent ces cycles de conférences. Accessoirement d'ailleurs, cette idée de décloisonner l'université, c'est une idée très ancienne en Amérique latine, puisque à la fin des années 1910, au début des années 1920, il y avait eu un vaste mouvement dans les universités latino-américaines connues sous le nom de réforme universitaire, où l'un des enjeux, c'était de faire davantage dialoguer les deux espaces, de nourrir les réflexions de l'université par les préoccupations de la société civile et donner éventuellement des réponses par les savoirs universitaires aux problématiques qui se posaient dans les sociétés civiles de l'époque.
L'Amérique latine et la mondialisation, par Serge Grusinski, c'est tout de suite dans la marche du monde.
Alors pourquoi utiliser l'Amérique latine pour réfléchir sur la mondialisation ? Alors, je vous rappelle que au XVIe siècle, il s'est passé dans l'histoire européenne un événement majeur autour de 1580, quand l'Empire espagnol s'est retrouvé réuni avec l'Empire portugais. Alors pourquoi un événement majeur ? Parce que c'est la première fois dans l'histoire du monde et dans l'histoire de l'Europe que on a mis ensemble l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, la Hollande aujourd'hui, une grande partie de l'Italie. Et puis une partie de l'Amérique, puisque à l'époque, 1580, déjà, Lima, Mexico sont des villes importantes, mais aussi Manille, les Philippines, mais aussi la présence des Portugais en Afrique, mais aussi l'Inde de Goa. Autrement dit, on est devant un système politique, la monarchie catholique, qui administre des territoires qui sont éparpillés dans les quatre parties du monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que des Ibériques, espagnols et portugais, et j'insiste sur le fait qu'il faut toujours penser les deux ensemble, ça veut dire que ces Portugais et ces Espagnols se sont trouvés en même temps face à toutes les grandes religions du monde. Que ce soit le shintoïsme, le bouddhisme, toutes les formes de l'islam, ou bien les cultes amérindiens sur toute l'étendue du continent américain. Et j'insiste sur cette simultanéité de l'expérience. Les Espagnols et Portugais se trouvent ou bien face à des populations du néolithique, dans beaucoup de régions de l'Amérique latine, ou face à la bureaucratie la plus développée du monde, qui est la bureaucratie de l'Empire Ming, la bureaucratie chinoise. Et cette simultanéité d'expérience, c'est très fort. Ce sont des Espagnols et des Portugais qui découvrent la plus grande ville d'Amérique, Mexico Tenochtitlan, qui est une des plus grandes villes du monde, mais qui découvrent aussi Pékin, l'autre plus grande ville du monde. C'est-à-dire qu'ils se trouvent, eux, Européens, face à des expériences urbanistiques complètement différentes et qui sont gigantesques. Ils se trouvent, bien entendu, face à des systèmes économiques différents, face à des langues. C'est évident, mais aussi face à des systèmes d'écriture. C'est intéressant de voir qu'on découvre en même temps les glyphes mexicains et les documents produits par l'administration chinoise. Donc c'est un moment fondamental dans l'histoire européenne. La première fois que les Européens, d'une façon souvent extrêmement violente, se trouvent face à peu près toutes les grandes civilisations et formes de société du monde. Bon, deuxième chose, ces Européens, ces Ibériques sont porteurs d'un projet de colonisation. Et cette colonisation, quand on en parle en termes de colonisation, on comprend pas grand-chose. C'est beaucoup plus vaste. Et c'est pour ça que j'appelle ça l'occidentalisation. C'est-à-dire, il s'agit d'exporter des formes de travail, mais aussi des formes de pensée. Il s'agit d'exporter l'écriture, il s'agit d'exporter le calendrier, il s'agit d'exporter, bien entendu, le christianisme. Mais le christianisme, c'est la définition des rôles entre l'homme, la femme, c'est la manière dont on contrôle la sexualité, c'est-à-dire, c'est un projet gigantesque. Et cette dimension chrétienne implique aussi qu'on transforme l'autre, c'est-à-dire qu'on en fasse un chrétien. Quel qu'il soit, c'est-à-dire il peut se trouver en Chine, en Philippines, en Afrique. Alors bien entendu, on va le transformer en chrétien pour en faire éventuellement un esclave ou un travailleur pour l'exploiter. Mais c'est important, si vous voulez, cette idée que les Européens doivent prendre en charge le reste du monde. Et ça, c'est pour ça que j'insiste sur l'Amérique latine et sur cet héritage. Le grand laboratoire où tout ça s'est fait au XVIe siècle, ça n'est pas l'Afrique, parce qu'en Afrique, les Européens n'arrivent pas à prendre pied, succombent aux maladies et ils restent sur les côtes. Ça n'est pas l'Asie, parce que la Chine des Ming ou l'Empire du Grand Mogol ne se laisse pas faire très facilement. C'est sur le continent américain que se produit cette migration de la culture, de la civilisation européenne.
Vous écoutez la voix de l'historien français Serge Grusinski. Après l'occidentalisation, c'est la question du métissage, conséquence de la mondialisation.
Occidentalisation, mais aussi ce que produit cette occidentalisation, c'est-à-dire invariablement des mélanges, des métissages. On ne peut pas transporter les institutions, les croyances, les modes de vie européens ailleurs, et en particulier en Amérique, sans qu'il y ait des phénomènes de transformation, d'adaptation, de distorsion, c'est-à-dire des changements qui sont des métissages. L'exemple le plus spectaculaire, c'est la transformation du catholicisme européen à travers ce qu'on appelle en anthropologie les syncrétismes, mais c'est un phénomène qui dépasse beaucoup le religieux pour s'étendre dans toutes les dimensions de la vie quotidienne, de la vie politique, de la vie sociale. Ces métissages, et pour moi c'est une chose très importante, ne sont pas des phénomènes culturels. Parler du métissage en phénomène culturel, c'est du blabla. C'est-à-dire, métissage sont des phénomènes politiques. C'est-à-dire, les mélanges se font toujours en fonction de rapports de force. Se font pas entre des cultures. Les cultures, ça n'existe pas. Il y a des sociétés qui existent, il y a des gens qui existent, et puis, entre ces gens et ces sociétés, il y a des gens qui sont plus forts les uns que les autres, qui font que dans un métissage, finalement, et c'est ce qui se passe sur la planète aujourd'hui, c'est la partie occidentale, d'où l'occidentalisation, qui va plus ou moins toujours l'emporter. Métissage, occidentalisation, encore une fois, ce qui m'intéresse, moi, c'est que ça peut s'observer pour la première fois grâce aux archives que nous possédons, grâce aux travaux des anthropologues et des archéologues sur le sol américain. C'est-à-dire que quand on parle de métissage et quand on pense au monde contemporain, ce sont ces métissages qui ont commencé au XVIe siècle entre des Européens, des Amérindiens, des Africains et des Asiatiques. Et ça, c'est l'expérience américaine, et en particulier de l'Amérique espagnole et portugaise, qui nous l'offre. Mexico, au milieu du XVIIe siècle, a 40% d'habitants d'origine africaine, noirs ou mulâtres. C'est-à-dire, Mexico, XVIIe siècle, ressemble au métro parisien. C'est quelque chose que souvent on oublie parce que nous avons toujours l'habitude de voir l'Amérique latine comme une espèce d'appendice, de rejeton où se retrouveraient les déchets ou les erreurs ou les monstruosités de l'Europe. Très souvent, quand on regarde l'Amérique latine et l'histoire de l'Amérique latine dans une optique de mondialisation, on s'aperçoit que l'Amérique latine précède. Ce qui se passe en Amérique précède ce qui va se passer ici, dans ce continent. Et moi-même, enfin c'est une expérience personnelle, je me suis rendu compte assez tardivement, j'ai passé 10 ans au Mexique, que ce que j'étudiais dans les archives et que je regardais au Mexique comme métissage, eh bien, il faisait évidemment totalement partie de l'histoire mexicaine, mais en fait, moi qui suis de Roubaix-Tourcoing, je le voyais à chaque fois que je rentrais chez mes parents dans les années 70-80, je voyais cette population métisse qui apparaissait, que nous appelons des maghrébins ou des musulmans, mais qui ne sont pas des maghrébins ni des musulmans, ils sont à la fois maghrébins, musulmans et français. C'est-à-dire, ils sont des métis, ils sont ces gens qui dérangent une société, comme le dérangeaient les premiers métis au XVIe siècle, parce qu'on ne sait pas où les mettre. On aime bien que les choses soient claires, où les gens sont des blancs, où les gens sont des étrangers, des immigrants. À partir du moment où ils sont à la fois des gens d'ailleurs et des gens du coin, ça devient compliqué. Et c'est ce qui s'est passé, évidemment, pour les métis de l'Amérique coloniale, que ce soit au Brésil ou bien que ce soit dans l'Amérique espagnole.
La pensée métisse de Serge Grusinski dans la marche du monde, telle qu'il l'a exprimée lors de sa conférence donnée à l'IHEL à Paris, une pensée qu'il a d'ailleurs développée dans un livre, Olivier Compagnon, c'était en 99. Alors c'est encore une fois en pensant l'histoire longue que l'on peut appréhender les mutations de nos sociétés contemporaines. Il faut remonter jusqu'à la Renaissance.
Oui, effectivement, puisque c'est là que se constitue, le mot est employé par Serge Grusinski à l'instant, un véritable laboratoire du métissage dans le nouveau monde ibérique, où sont confrontés ce qu'on appelle traditionnellement les Amérindiens, les Européens et évidemment les Africains déportés par les Européens pour des raisons évidemment de besoin de main-d'œuvre notamment. Donc là on a une idée à mon avis fondamentale sur l'histoire de l'Amérique latine en général, à savoir que elle n'est pas seulement une périphérie du monde qui serait dominée au XVIe siècle par l'Europe, au XXe siècle par les États-Unis. Elle est aussi, dans une certaine mesure, un laboratoire d'un certain nombre d'évolutions et peut en cela nous aider à comprendre des choses qui, ensuite, vont se passer en Europe. Alors évidemment, l'exemple créé ici par Grusinski nous interpelle au début de l'année 2016, puisqu'il nous parle de Tourcoing, qu'il connaît bien, et des phénomènes de métissage qui sont aujourd'hui à l'œuvre. Et ce que je trouve très très intéressant dans ce qui est dit ici, sans esprit provocateur, je crois, c'est de dire, attention, le métissage qui aujourd'hui est souvent célébré de manière un petit peu aveugle par, je dirais, une gauche bien pensante, comme le phénomène naturel auquel, au fond, une société mondialisée devrait aboutir, est d'abord l'objet de rapports de force. C'est un phénomène politique. Et je trouve intéressant de rappeler cela dans le contexte actuel où il me semble difficile de balayer d'un revers de la main toutes les réticences qui existent aujourd'hui en France ou ailleurs, contre ces phénomènes de métissage.
Alors effectivement, Serge Grusinski dit « nous sommes tous des métis » et ce n'est pas dans sa bouche un jugement de valeur. En revanche, à l'époque coloniale, cette idée du métissage était insupportable, en tout cas officiellement. Et est-ce que cela veut dire que pour comprendre ces débats actuels sur l'identité nationale, quel que soit son pays d'origine, il faut regarder la façon dont la colonisation occidentale a entraîné cette première vague de métissage et la façon aussi dont elle assumait ou pas ce métissage.
Oui, alors on ne va pas non plus dire que comprendre ce qui s'est passé en Amérique latine va nous aider à résoudre tous les problèmes du contemporain, mais en tout cas ça peut être une solution pour les penser un petit peu différemment. Il est évident que dans les premiers temps, je dirais les deux premiers siècles au moins, de la colonisation ibérique dans le Nouveau Monde, le métissage est porteur d'une valeur négative. Lorsque des créoles, autrement dit des fils d'Espagnols installés dans les Amériques, ont le malheur de voir leur fils épouser une Indienne ou une métisse, on dit en espagnol qu'il fait alors le salto atrás, le saut en arrière. Le saut en arrière en termes raciaux. Le métissage, c'est un abâtardissement. Et dans tout le système de représentation d'une hiérarchie entre les races, dans le nouveau monde ibérique, cela dure jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Sur ce vient se greffer au XIXe siècle d'ailleurs tout le racisme scientifique, élaborant cette pseudo-théorie scientifique selon laquelle la race blanche et européenne est la race supérieure. Et ce n'est finalement qu'au début du XXe siècle, avec le développement de l'anthropologie, etc., qu'on sortira un petit peu de ces modes de pensée pour brosser cela à grands traits. Mais ce qui est intéressant justement dans l'expérience américaine, c'est de voir comment progressivement la figure du métis est devenue une figure dominante et constitutive de l'identité américaine. Simplement, ça ne s'est pas fait, effectivement, en un claquement de doigts. Ça a été une évolution de temps très long et intimement liée, justement, à cette réalité naturellement, intrinsèquement connectée dont sont porteuses les Amériques, en quelque sorte. Et ça, je voudrais revenir là-dessus, puisque c'est le début de ce que Grusinski disait. Au fond, le monde des années 1596-120, à l'époque de la monarchie catholique, à l'époque de l'unification des couronnes espagnoles et portugaises, c'est le même monde qu'aujourd'hui. Les quatre parties du monde, comme Grusinski le dit dans son livre de 2004, sont connectées. Les hommes circulent, les idées circulent, les systèmes de représentation circulent. À la nuance près qu'ils circulent beaucoup plus lentement qu'aujourd'hui. Au fond, la difficulté du monde contemporain, je crois, c'est de devoir affronter des circulations, par exemple d'individus, qui sont beaucoup plus massives et rapides qu'elles ne l'étaient à l'époque. Mais les questions qui sont soulevées sont à peu près les mêmes.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
Suite de la Marche du Monde et de la conférence inaugurale des Jeudis de l'IHEAL, une conférence prononcée par le célèbre historien Serge Grusinski, le sujet « L'Amérique latine, laboratoire de la mondialisation au XVIe siècle ».
Alors, mondialisation pourquoi ? Sur la carte de Lopez de Velasco, il n'y a pas simplement que le continent américain, l'océan Pacifique, les côtes de la Chine. Il y a aussi un morceau d'Afrique. Parce que dans cette histoire, évidemment, et c'est une autre forme de démarrage de la mondialisation, c'est cette idée évidemment diabolique de faire circuler une partie des populations de l'Afrique vers l'Amérique. C'est-à-dire cette idée d'une déportation de main-d'œuvre qui va se chiffrer par des millions de vies humaines d'un continent à l'autre. La mondialisation, c'est pas la chute du mur de Berlin ni le XXe siècle. À partir du moment où vous avez des entrepreneurs, parce que ça coûte énormément d'argent, et puis je veux dire, il faut connaître son métier pour être trafiquant d'esclaves. Ça se fait pas n'importe comment. Il faut savoir où on les achète, où on va les vendre. Il faut traverser des océans. Il faut faire du profit. Et une marchandise humaine, c'est toujours un peu compliqué. Vous avez là la mondialisation.
Well, some say John was a Baptist. Some say John was a Jew. But I say John was a preacher, cause my Bible says so too. I say Roger and Roger, Roger and Roger. My soul arising ever, Lord, for the year and Roger. Hallelujah, Roger and Roger. Roger and Roger, my soul arise in heaven, Lord, for the year when Jordan rolls.
Le commerce de l'esclavage, première mondialisation, nous dit Serge Grusinski, en regardant cette carte du monde dessinée par Lopez de Velasco, qui est un cartographe espagnol et qui est l'auteur de la carte de la division des Indes en 1575, une mondialisation dont le nerf de la guerre est économique, Olivier Compagnon.
Alors, il n'est pas qu'économique, puisque justement, l'idée d'occidentalisation de Serge Grusinski, c'est de montrer que, au-delà des enjeux économiques, il y a aussi une colonisation de l'imaginaire, une diffusion forcée des valeurs de l'Occident chrétien, de l'Europe chrétienne, et c'est bien pour cela d'ailleurs qu'il veut utiliser le mot d'occidentalisation. Mais en même temps, c'est vrai, il ne faut surtout pas oublier que l'une des matrices extrêmement fortes de l'expansion européenne de l'époque, et notamment de la conquête espagnole du Nouveau Monde, c'est la matrice économique, les immenses trésors, non pas tellement en or, mais surtout en argent, les mines d'argent de la vallée centrale du Mexique, la mine d'argent de Potosi dans le Haut-Pérou, qui effectivement donne sens pour la monarchie espagnole à cette gigantesque entreprise. Donc évidemment, cette matrice est essentielle et elle nous amène à l'Afrique. Serge Grusinski dit très fréquemment qu'on ne peut pas faire l'histoire du nouveau monde ibérique sans faire en même temps, simultanément, l'histoire de l'Afrique, qui est un formidable centre de main-d'œuvre pour le Portugal et pour l'Espagne.
Et à l'époque, l'Espagne et le Portugal, vous l'avez souligné, sont des monarchies catholiques. Mais alors, quelle justification est donnée à l'époque pour commettre ce que l'on considère aujourd'hui un crime contre l'humanité, pour réduire des êtres humains en esclavage ? L'explication de Serge Grusinski au fil de sa conférence du jeudi 21 janvier.
Et vous avez la réponse intellectuelle à cela. Si vous relisez les écrits de ce personnage extraordinaire qu'est Bartolomé de las Casas, Si vous ouvrez la Historia de las Indias, vous voyez avec curiosité que, évidemment, il raconte l'histoire de la découverte de l'Amérique, de la colonisation de l'Amérique. Mais il y a 14 chapitres sur l'Afrique. Et pas sur l'Afrique du XVIe siècle, sur l'Afrique du XVe siècle. Parce que Las Casas, qu'est-ce qu'il nous dit ? On ne peut pas comprendre l'histoire de l'Amérique si on ne fait pas l'histoire de l'Afrique au XVe siècle, de la conquête des Canaries, de l'arrivée des Portugais et de la mise en place du système de l'esclavage. Parce que c'est parce que les Portugais ont appris à esclaviser ces Noirs de l'Afrique que nous, Espagnols ou Portugais, nous esclavisons les Indiens de l'Amérique. Et ça, on est en 1540, voyez. Et c'est là, j'insiste là-dessus, si vous voulez, parce que vous n'avez pas simplement le phénomène de la traite, qui est un phénomène intercontinental, mais aussi la prise de conscience. Et là, c'est un phénomène, c'est une prise de conscience intellectuelle, dire que, bon, oui, d'accord, on écrit une histoire de l'Amérique, et c'est une des premières histoires de l'Amérique, c'est-à-dire qui prend comme objet l'Amérique, mais qui dit, évidemment, on ne peut pas construire l'histoire de l'Amérique sans y mettre l'Afrique. Et c'est tout de même très tôt. Vous voyez comment on peut suivre ce que j'appelle avec Louise Bénat, ma collègue de Paris 4, la conscience monde. Il y a une conscience. Las Casas, évidemment, a une conscience monde. Et en plus, lui, une conscience critique. Il est certain que les négriers ont aussi une conscience monde. Mais là, on a la conscience critique qui montre que, finalement, cette destruction des Indes que décrit Las Casas, cette manière de traiter les Indiens, vient d'un poison qui a été semé au XVe siècle et dont la faute remonte évidemment aux Portugais et à la papauté. Las Casas n'est pas tendre puisque les Portugais avaient le droit de transformer en esclaves leurs prisonniers musulmans, mais il leur était interdit de transformer en esclaves des païens. Autrement dit, les Noirs de l'Afrique centrale et du reste, qui n'avaient jamais été musulmans, ne pouvaient sous aucun prétexte être transformés en esclaves. Malheureusement, au milieu du XVe siècle, la papauté étend le privilège et permet qu'on réduise en esclavage des païens, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des ennemis de la foi chrétienne comme sont considérés les musulmans. Et ça, Las Casas le dit, et il le voit très bien.
C'est fascinant, Olivier Compagnon, puisque dès le XVe siècle, la question de l'Afrique au centre de cette réflexion sur la mondialisation est présente dans les écrits de Las Casas.
Oui, et en fait, elle est absolument essentielle parce que ce qui circule depuis l'Afrique vers les Amériques, ce ne sont pas seulement des bras, ce n'est pas seulement des forces de travail, ce sont des hommes, et évidemment, avec les hommes, ce sont toute une série de pratiques culturelles. Ce sont des systèmes de croyances, ce sont des pratiques extrêmement diverses que l'on retrouve d'ailleurs profondément ancrées dans l'Amérique latine contemporaine. Alors ce qui est intéressant, c'est que là on retrouve cette question du métissage, cette question de l'altérité. Ces pratiques ont longtemps été bannies de l'espace public. Prenons un exemple tout à fait bateau aujourd'hui, mais très intéressant, qui est celui de la capoeira. Aujourd'hui, la capoeira est à la fois un marqueur identitaire du Brésil tel qu'il s'exporte à l'étranger, une pratique aussi authentiquement brésilienne, et toutes les grandes capitales du monde aujourd'hui ont leur club de capoeira. Cette capoeira a été exclue de l'espace public jusqu'au milieu du XXe siècle, jusqu'aux années 30, parce que précisément elle était un héritage de cette histoire que l'on ne voulait pas voir. Et l'un des éléments qui est intéressant aujourd'hui, c'est la redécouverte du passé africain dans un certain nombre de pays. C'est évidemment vrai au Brésil et on l'a beaucoup vu, notamment à la période pendant les deux gouvernements de Lula entre 2003 et 2010, mais on le voit aussi dans d'autres pays comme le Venezuela, comme le Mexique, qu'évoquait tout à l'heure Serge Grzinski, avec ses 40% de noirs ou de mulâtres au tournant des 16e et 17e siècles.
Croiser les points de vue et donc les regards, c'est ce que propose l'historien Serge Grzinski pour comprendre la mondialisation. Regardez l'histoire de la colonisation des Amériques par l'Empire ibérique, écoutez ce qu'en pensent les chrétiens, mais écoutez aussi ce qu'en pensent les musulmans de l'Empire ottoman.
Quel est l'ennemi de la monarchie catholique à l'époque? C'est l'islam, c'est l'Empire ottoman. Et la conquête de l'Amérique, et ça ce sont les premiers mots pratiquement de Christophe Colomb, on justifie la conquête de l'Amérique par la nécessité de reconquérir les lieux saints et donc de mettre un terme à la monstruosité musulmane. Et ça, c'est aussi important, je veux dire, de savoir qu'il y a quelque chose au départ. Apparemment, quand on parle d'Amérique, il n'y a pas d'islam en Amérique, il n'y a pas de musulmans. En fait, l'islam est toujours derrière ce projet américain. Mais on peut aller plus loin, je veux dire. Et on devrait, à mon avis, quand on étudie l'Amérique latine, aujourd'hui, plus que jamais, se dire que quand même, il n'y a pas que les Espagnols ou les Européens qui ont écrit sur la colonisation de l'Amérique. Les Turcs aussi. Pourquoi n'enseigne-t-on pas à l'université les histoires turques de la colonisation et de la conquête de l'Amérique? Xénophobie, racisme, évidemment, on ne va pas tomber là-dedans, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, voyez-vous, même dans un espace universitaire, cette ignorance absolue du fait qu'au XVIe siècle, il n'y a pas que les chrétiens européens qui écrivent sur l'Amérique. Et donc, qu'il peut y avoir un autre regard, d'autres historiens. Et c'est intéressant, évidemment, de se dire qu'est-ce que Istanbul pense de la conquête de l'Amérique ? Qu'est-ce que les musulmans pensent de la christianisation de l'Amérique ? Depuis les découvertes de Christophe Colomb, il y a un œil constamment sur l'Amérique, qui est bien entendu un œil comparable à l'œil ibérique, c'est-à-dire qu'il est à la fois impérialiste, le problème c'est pourquoi c'est eux et pas nous, et qu'il est religieux. Pourquoi ces pauvres Indiens deviennent-ils des mécréants alors qu'ils auraient pu devenir de très bons musulmans? C'est ça aussi, s'intéresser à la mondialisation.
Changeons de point de vue. Regardons l'histoire de la mondialisation autrement. C'est la proposition de Serge Grusinski lors de sa conférence inaugurale dès jeudi de l'IHEAL, et c'est en exclusivité sur RFI.
Pourquoi les pays de l'islam vivent assez mal la domination occidentale et la mondialisation occidentale? Et assez mal, c'est bien entendu un euphémisme. Il faut tout de même, quand on prend cette longue durée dont je parlais tout à l'heure, se dire que jusqu'au XVIe siècle, la force mondialisatrice, c'est l'islam. C'est l'islam depuis le VIIe siècle. C'est-à-dire il y a quelque chose qui se passe dans cette partie du monde, et dans cet ensemble de terres de l'islam, qui fait qu'il y a une expansion du Maroc jusqu'à la Chine. Et c'est quelque chose qui a extrêmement bien fonctionné à l'époque que nous appelons le Moyen-Âge. C'est au XVIe siècle que les choses se bloquent pour les pays de l'islam. Que ce soit pour l'Empire ottoman, que ce soit pour la Perse, pour l'Empire du Grand Mogol, il y a à la fois un ressentiment profond. Pourquoi ce sont eux qui christianisent cette partie du monde? Et en même temps, un choc qu'a vécu aussi la chrétienté. Pourquoi le Coran n'a jamais parlé des Indiens américains? Pourquoi nos savants, pendant tout le Moyen-Âge, qui ont fait des cartes, qui étaient bien plus forts que les savants chrétiens du monde européen, ne savaient rien de l'Amérique? Et là, c'est aussi extrêmement intéressant de voir cette remise en cause. Cela dit, on est dans une situation où le relais de la mondialisation, je fais court évidemment et je schématise, est en train de passer du monde musulman à la chrétienté occidentale. Donc vous voyez que, d'une part, beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui se jouent à cause de la découverte de l'Amérique, et que c'est là que commence une fracture qui se répercute jusqu'à aujourd'hui entre deux pôles, un pôle occidental, un pôle chrétien avec ses ambitions universalistes, et un autre pôle tout aussi universaliste qui est le pôle musulman. Tout à l'heure, je vous ai rappelé cette pulsion de l'occidentalisation qui veut qu'on aille prendre les autres en charge, qu'on les transforme. Hein. Las Casas a des mots qui peuvent nous choquer aujourd'hui, qu'on les domestique. L'humanisme du XVIe siècle, c'est la domestication des autres par les lettres. Hein. Des gens qui sont des barbares, c'est les transformer en gens lettrés. Bon, l'islam fonctionne de la même façon. On va chercher les autres pour les transformer. Et s'ils ne veulent pas être transformés, on les élimine. Bon. Et là, il y a un parallèle absolu entre ces deux forces religieuses. Ça nous permet aussi, XVIe siècle, justement de revenir sur le religieux et de comprendre que le religieux, c'est pas simplement un délire fanatique de quelques jeunes frustrés au XVIe siècle. C'est le religieux qui est finalement ce qui permet, et ça pour moi c'est important, de penser la mondialisation. L'universalisme passe à travers le christianisme. Et le projet de transformer les autres est d'abord un projet de missionnaire et d'évangélisation. On ne peut pas penser le monde comme ça, je veux dire, il faut des outils. Or, les outils qui sont à la disposition des Européens ou des musulmans, ce sont des outils religieux. Alors, c'est quelque chose qu'on va évidemment oublier par la suite, mais ce qui donne la force à ces gens de traverser le Pacifique et à ces missionnaires d'entrer au Japon et en Chine, c'est ce qu'on appelle la foi chrétienne, cette espèce de force qui fait que, contre vents et marées, on a l'intention de transformer les autres.
On ne peut penser le monde sans utiliser la religion, et c'est une réflexion de Serge Grusinski qui s'applique à ce basculement du monde au XVIe siècle. Un monde qui passe d'une domination de la religion musulmane à la domination de la religion chrétienne. Un monde laboratoire de la mondialisation par la transformation des populations de l'Amérique latine. Coloniser, c'est évangéliser, nous dit Serge Grusinski, et il insiste sur cette dimension religieuse. C'est la croyance qui donne la force de traverser les océans et qui justifie l'esclavage ou le massacre des Indiens mécréants.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Quelle réflexion vous inspire cette proposition, Olivier Compagnon, vous qui dirigez l'Institut des hautes études en Amérique latine?
Alors, elle m'inspire beaucoup de choses, la proposition de Serge Grusinski, parce que c'est extrêmement riche. D'abord, tout ce qui vient d'être dit, c'est une allusion directe au livre que Grusinski a fait en 2008 et qui s'appelle « Quelle heure est-il là-bas ? Amérique et Islam à l'orée des temps modernes ». Et c'est l'une des marques de fabrique de l'œuvre de Grusinski, sa capacité à décentrer le regard, c'est-à-dire à essayer d'écrire une histoire des Amériques européanisées, hein, depuis le monde musulman, et de connecter des mondes qui, jusque-là, ne l'étaient pas. Et donc ça, méthodologiquement, c'est intéressant.
Et qui, du coup, ont des choses à voir ensemble.
Et qui, pourtant, ont beaucoup de choses à voir ensemble. Voilà. Et puis, le deuxième élément qui me paraît essentiel, c'est que, au fond, qu'est-ce que c'est ce moment crucial qu'on appelle, dans notre perspective européocentrée, qu'il convient de déconstruire, la Renaissance? C'est au fond un moment d'affrontement de deux grands impérialismes, dont l'une des matrices essentielles, c'est la religion, effectivement. Et finalement, c'est l'Europe chrétienne, incarnée par la péninsule ibérique, qui l'emporte, pour des raisons qu'on peut ensuite objectiver en termes militaires, économiques, stratégiques. Mais effectivement, on aurait pu imaginer un autre scénario. Ce que je trouve intéressant, c'est de montrer que la conquête du Nouveau Monde par Colomb, puis par Cabral en 1500, lorsqu'il découvre le Brésil, ce n'était pas donné d'avance parce que l'Europe était naturellement la puissance dominante. Et je trouve qu'il y a quelque chose de salvateur aujourd'hui, dans le contexte contemporain, à insister sur cette dimension-là.
Salvateur et dérangeant pensée iconoclaste que celle de Serge Grusinski, qui en bon intellectuel vient bousculer nos certitudes, décaler notre regard, inverser nos points de vue. Et cette édition spéciale de la Marche du Monde ne saurait retransmettre les moments clés de cette conférence du 21 janvier sans aborder la question de la conquête de la Chine au XVIe siècle, car l'appétit de l'Empire ibérique, c'est-à-dire l'appétit des Espagnols et des Portugais, est alors immense.
Alors, il faut aussi, quand on essaie de replacer l'Amérique latine de cette époque-là dans un contexte mondial, faire surgir l'autre grand géant qui nous intéresse aujourd'hui, et qui va mener le jeu de plus en plus, c'est-à-dire c'est la Chine. Et ça, on ne peut pas non plus séparer l'étude de l'Amérique latine de l'étude de la Chine, ou alors on n'a rien compris. Pourquoi joindre les deux? Eh bien parce que quand on essaie de relire l'histoire en sortant des frontières nationales et du cadre sclérosant des monographies, on s'aperçoit que vers 1516-1517, les Portugais et les Espagnols veulent arriver par tous les moyens dans les îles aux épices et dans la mer de Chine. Projet commun. Avec une rivalité, bien entendu, puisque c'est en 1580 que les deux sont unis, mais avant 1580, ils ne s'aiment pas beaucoup. Et on peut et on doit relire l'arrivée des Espagnols en Amérique comme un mouvement parallèle à la progression des Portugais vers la Chine et vers les îles aux épices. Il faut vous rappeler que les épices au XVIe siècle, c'est comme le pétrole aujourd'hui. Et là, on a une histoire parallèle qui est assez fabuleuse quand on fait l'effort de mettre les deux choses l'une à côté de l'autre, puisque les Portugais vont rentrer en Chine, vont découvrir Pékin, vont rencontrer l'empereur de Chine. Cortés va rentrer dans le Mexique, découvrir Mexico Tenochtitlan, rencontrer Moctezuma. Et j'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui parce que je vois que l'heure tourne vite, mais c'est assez fabuleux pour un historien de pouvoir penser en même temps et lire ces documents où Tomé Pires, qui est le chef de l'ambassade portugaise et du groupe d'intervention portugaise, se trouve face à l'empereur Ming. Lui, Tomé Pires, qui est un petit noble portugais qui s'intéresse à l'économie et se trouve devant le fils du ciel, c'est-à-dire l'homme le plus puissant du monde, au moment même où Cortés, qui lui aussi est quelqu'un de aux origines relativement modestes, se trouve devant un homme-dieu, Moctezuma. Ce qui compte, si vous voulez, dans ces histoires parallèles, c'est de comprendre qu'elles font partie de la mainmise ibérique sur le globe, c'est-à-dire ce ne sont pas des histoires séparées, même si les issues de ces histoires sont totalement opposées. Puisque, d'un côté, la conquête de Cortés fait que nous sommes réunis ici, c'est-à-dire qu'il y a une Amérique latine, alors que de l'autre côté, les Chinois vont assez rapidement, mais pas tout de suite, régler leur sort aux Portugais.
La voix de Serge Grusinski sur RFI lors de sa conférence inaugurale des Jeudis de l'IHEL sur l'Amérique latine et la mondialisation. L'historien nous livre sa conclusion.
Pensez un petit peu à cette caractéristique de ce que j'appelle l'occidentalisation, qui est la démesure. Cortés va conquérir un territoire où il y a de 15 à 20 millions d'habitants. Il a fait la conquête et puis ensuite c'est tout le reste du continent qui va passer à la casserole. Bon. De l'autre côté, c'est pas 20 millions d'habitants, c'est 150. Mais on a la même, cette chose étrange qu'un historien a beaucoup de peine à expliquer, cette espèce d'appétit en disant, ben oui, bon, la conquête de la Chine, nous Portugais, on colonise toute la Chine du Sud, et puis on va demander à l'empereur à Pékin de payer un tribut au roi de Portugal, parce que évidemment c'est un peu grand à couvrir. Et alors, vous comprenez bien que quand on lit ça, ça nous fait rigoler et sourire. Simplement, quand vous lisez ce qui s'est passé du côté de l'Amérique, ça fait beaucoup moins sourire. Parce que là, il y a conquête, et il y a conquête de toute la totalité du continent. Le point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est cette démesure. C'est-à-dire, c'est totalement irrationnel au départ. Comment expliquer les Chinois vont jamais vouloir conquérir ni l'Afrique, ni l'Europe, même encore aujourd'hui. Comment expliquer que ces deux pays mettent ça sur la table en se disant, ah bon, eux, ils ont la Sindias Occidentales, nous, on va se taper la Chine de l'autre côté. C'est, je pense d'ailleurs, et c'est là où cette histoire nous sert de miroir à nous, Français et Européens, cette dimension de démesure, de gigantisme, qui fait que la culture occidentale aujourd'hui, elle est partout sur toute la planète. J'ai eu la chance d'aller en Chine au mois d'août, je veux dire, peut-être l'aspect le plus horripilant de la Chine, c'est son occidentalisation. Voir la profondeur que peut atteindre l'occidentalisation. Et que finalement ce projet que nous voyons naître sur le territoire américain au XVIe siècle, se mettre en place, finalement, nous sommes les témoins de sa culmination et son arrivée à terme sur toute la planète. L'Europe s'est formée en Amérique latine, à travers l'immigration, en construisant des choses et en détruisant des choses là-bas. C'est un miroir fondamental pour nous tous. Et c'est un lien avec une partie du monde que nous ne pouvons pas du tout sacrifier. Ce serait tout à fait regrettable d'oublier que il y a une partie de notre passé en tant qu'Européens qui se trouve de ce côté-là. Et les Latino-Américains qui viennent étudier parmi nous sont les héritiers aussi de ce passé européen. Je vous remercie.
La démesure de l'occidentalisation, l'insatiable puissance occidentale. L'Occident qui a atteint son point culminant, puisque la Chine en fait partie intégrante aujourd'hui, nous dit Serge Grusinski au terme de sa conférence brillante, et néanmoins démesurée, Olivier Compagnon. Peut-on tout expliquer justement en revenant sur cette histoire longue? Peut-on dire aujourd'hui que l'occidentalisation a atteint son point culminant? Ce serait donc la fin de l'Europe et que la Chine serait totalement occidentalisée? Tout le monde évidemment ne partage pas ce point de vue.
Il y a divers niveaux de réponse. Là encore, pouvons-nous tout expliquer par ce recours au temps long, j'ai presque envie de vous répondre de manière encore plus démesurée en vous disant que dans les propos de Serge Grudzinski, lorsqu'il nous explique que finalement tout ce qui se passe au XVIe siècle, c'est l'appétit de la Chine, c'est l'appétit des épices, en vérité, celui qui a découvert l'Amérique, c'est Marco Polo. Puisque tout ça vient du XIIIe siècle, de la découverte des épices et de cette course aux épices qui ensuite va motiver l'expansion européenne au XVe siècle, la politique des comptoirs, etc.
Et qu'il compare à la course au pétrole, hein, qui est aujourd'hui le nerf de la guerre.
Et ce que je trouve intéressant, en tout cas, dans cette perspective de Grudzinski, c'est quand même systématiquement de faire un plaidoyer pour l'histoire et de montrer que des logiques que l'on observe à un moment donné s'enracinent 2 siècles, 3 siècles, 8 siècles auparavant. Et ça me semble absolument essentiel dans le monde contemporain. Alors après, sur la Chine, je ne vais pas m'aventurer à parler du niveau d'occidentalisation de la Chine parce que c'est un pays sur lequel je ne travaille pas et que je ne connais pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure une boucle serait bouclée dans l'histoire sino-américaine lorsque, aujourd'hui, on observe l'appétit chinois vers notamment l'Amérique latine.
On sait que,
et l'Afrique, bien entendu. Mais on sait, pour ne prendre qu'un seul exemple, l'importance des capitaux chinois dans les Caraïbes, en Amérique centrale, dans le projet de percement d'un nouveau canal au Nicaragua. Très important, le canal du Nicaragua, puisque c'est le doublement du canal de Panama. Et qu'est-ce que c'était que le canal de Panama inauguré en 1914 ? C'était une intensification des liens entre les quatre parties du monde qui avaient été connectées depuis le tournant des 16e et 17e siècles. Alors, sans doute, ensuite, faut-il apporter toute une série de nuances. Cette idée d'occidentalisation ne suit pas un cours linéaire depuis le XVIe siècle, et notamment, je crois que l'occidentalisation d'aujourd'hui doit être pensée aussi au travers de la notion d'américanisation, j'entends par là de nord-américanisation, c'est-à-dire l'empire culturel des États-Unis à partir du XXe siècle, apporte toute une série de nuances, mais en tout cas, c'est évidemment une clé de lecture qui nous permet de comprendre de nombreux aspects de la contemporanéité.
Merci Olivier Compagnon et bien sûr un grand merci à Serge Grudzinski. Vous pouvez réécouter cette édition spéciale de La Marche du Monde sur RFI.fr, une émission réalisée par Cécile Pompéani avec les compétences techniques de Marc Fichet. No quiero ser tu artista favorito, tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso, mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Écrivez-nous marche.monde@rfi.fr. Exprimez-vous sur notre page Facebook. Podcastez cette émission, c'est la vôtre.